Amen. Suivre Jésus, jour après jour, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et merci pour ceux qui ont déjà fait ce choix, et merci Seigneur pour ceux qui vont faire ce choix. Cet après-midi, c'est l'occasion de faire ce merveilleux choix de suivre Jésus. Dans l'évangile de Jean, il nous est rapporté une conversation bien connue entre Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Et nous allons lire un petit peu quelques éléments de cette discussion que Jésus a eue avec cet homme. Il vient trouver Jésus de nuit, parce que c'est un religieux et il ne tient pas tellement à se faire remarquer. Il craint d'être incompris ou critiqué parce qu'il choisit justement d'aller vers Jésus pour lui poser des questions et il ne veut pas s'afficher. Et il se peut que jusqu'à ce jour, vous n'ayez pas osé aussi vous afficher publiquement dans votre foi et que vous ayez des réticences, mais c'est exactement ce que cet homme a vécu. Il était réservé, il est venu Jésus parce qu'il était quand même intrigué. Il se posait des questions sur Jésus, il est venu le voir de nuit. Et dans la discussion qui a lieu entre cet homme et Jésus, il y a deux impératifs. Et ce sont ces deux impératifs que j'aimerais souligner tout de suite, avant d'aller plus loin dans le partage de l'Évangile. Le premier impératif, nous le trouvons dans le chapitre 3 et au verset 7 de l'Évangile de Jean. Et Jésus dit ceci à cet homme, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, c'est un impératif, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà le premier impératif sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Ça nous concerne tous. Il faut que tu naisses de nouveau. En d'autres termes, cela indique que Jésus souhaite et désire que notre vie change. Quand il dit « il faut que tu naisses de nouveau », ça veut dire « il faut qu'il y ait un changement ». Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Et peut-être que vous en êtes conscient aussi et vous dites « il faut que ça change aussi dans ma vie ». Il y a des personnes qui sont désespérées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont dans l'angoisse, il y a des personnes qui sont peut-être tenues par la violence, d'autres qui sont tenues par la pornographie, d'autres qui sont tenues par le mensonge, d'autres qui sont tenues par la crainte et par toutes les situations difficiles qu'ils vivent. Peut-être que vous êtes pris dans l'engrenage de la haine. Je ne sais quelle est la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver et pour laquelle vous-même vous avez dit plus d'une fois « il faudrait que ça change ». Ça rejoint exactement ce que Jésus dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Et c'est vrai que tu le souhaites, et c'est vrai que tu le désires, et c'est vrai que tu y aspires. Tu voudrais que ça change, mais il faut reconnaître une chose, c'est que bien souvent, et très souvent, et je dirais presque tout le temps, eh bien, ce que nous souhaitons et ce que nous aimerions voir changer dans nos vies, ça a du mal à changer. Ça n'arrive pas. On voudrait bien que ça change, mais il y a toujours une difficulté, un obstacle, et malheureusement, c'est comme si on était bloqué, arrêté. On a de bonnes intentions, on a de bons désirs, on aimerait que ça change, mais il y a un blocage. Et pourtant, Jésus qui dit « il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que ça change dans ta vie », nous place devant cette nécessité et il nous rappelle qu'il ne peut pas en être autrement. Alors bien sûr, si cet impératif, nous avons du mal à l'accomplir, c'est pourquoi Jésus introduit un deuxième impératif qui va nous amener justement vers le chemin de la délivrance et de la victoire. Et ce deuxième impératif, nous le trouvons au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, encore un impératif, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que ce premier impératif que tu ne peux pas atteindre par toi-même puisse enfin s'accomplir dans ta vie. Tu ne peux pas toi-même changer. Le changement n'est pas à ta portée par toi-même. Il y a un blocage. Ta nature est plus forte que toi. Tu voudrais que ça change, mais tu n'y arrives pas. Mais voilà pourquoi Jésus ajoute ce deuxième impératif qui vient nous apporter la réponse et la délivrance et la solution. Alors que tu ne peux pas y arriver, alors que tu ne peux pas changer, alors que tu es arrêté, que c'est bloqué, voici le deuxième impératif. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que, enfin, tu puisses, toi, accomplir le premier impératif, c'est-à-dire changer, changer de vie. Jésus fait allusion ici à un fait historique qui s'est produit des siècles bien avant, dans le désert. Alors que le peuple d'Israël était dans le désert, il y a un événement qui s'est produit et des serpents ont commencé à envahir le camp et ces serpents mordaient les habitants, les Israélites qui étaient en déplacement dans le désert. Et ceux qui étaient mordus par ces serpents, il nous a dit qu'ils trouvaient la mort. Ils auraient voulu échapper aux serpents. Ils auraient voulu échapper à la mort, mais c'était une impossibilité. Alors Dieu va dire à Moïse, voilà, j'ai une solution. Le peuple veut changer, le peuple veut qu'il y ait une délivrance, le peuple veut s'en sortir. Alors il faut que tu dresses un pieu et au sommet de ce pieu, tu vas mettre un serpent en airain. Et quiconque regardera vers le serpent d'airain, même s'il a été mordu par les serpents, ne mourra point. La réponse vient de la part de Dieu. Dieu dit, il faut que le peuple soit délivré des morsures du serpent. Il faut que le peuple puisse s'en sortir et sortir de ce marasme dans lequel il est. Alors j'apporte moi une réponse. Il faut, Moïse, que tu élèves un serpent d'airain sur un pieu et quiconque regardera au serpent d'airain sera sauvé. La réponse pour le salut est venue de Dieu. Le premier impératif, il faut que ça change, nous met aussi devant notre incapacité. Mais le deuxième impératif, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, nous montre l'amour et la puissance de Dieu. Dieu sait que nous ne pourrons pas changer par nous-mêmes, mais il nous donne une réponse. Il a envoyé son Fils. Jésus est celui qui a été élevé, non pas sur un bâton, mais il a été élevé sur une croix, comme dit l'Écriture. Il a été pendu au bois, comme dit l'Écriture. Il a été crucifié. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il est la réponse de Dieu à toutes nos impossibilités. Tout changement, tout miracle, toute délivrance, toute guérison ne peut s'accomplir que lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Lorsque nous tournons nos regards vers lui, il y a donc une réponse de Dieu pour que tu puisses naître de nouveau, pour que les choses changent dans ta vie. Il faut que tu regardes à celui qui est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés. Parce que les serpents, c'est l'image du péché. Ce péché qui nous mord, ce péché qui nous détruit, ce péché qui amène la faillite, la ruine, le désespoir, ce péché qui est une source de souffrance. Eh bien, ce péché, il est là, il agit dans la vie de tous les hommes, mais il y a un moyen de s'en sortir, il y a un moyen d'une nouvelle naissance, il y a un moyen de voir le changement, il y a le moyen de voir la victoire sur le péché, il y a le moyen de sortir de ce poison terrible du péché qui nous conduit vers la mort. C'est lorsque nous tournons nos regards vers la parole de Dieu, lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, alors là, Dieu intervient dans notre vie. Et voilà pourquoi il est écrit ce beau verset que tout le monde connaît, que vous pourrez dire avec moi, car Dieu, amen, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte de l'Écriture a été prêché, je l'ai prêché, il sera prêché. C'est un texte qui est très connu, qui est le cœur même de la bonne nouvelle de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut des hommes, Dieu a tant aimé. Et dans ce verset, il y a trois personnages. C'est comme si vous assistiez à une scène de théâtre, disons, et il y a trois personnages qui sont sur la scène et qui interviennent. Et ici, il y a trois personnages qui sont mentionnés. Le premier personnage, c'est Dieu. Et puis le deuxième personnage, c'est Jésus. Il a envoyé son fils, Jésus. Et puis le troisième personnage, c'est toi, quiconque, c'est moi, c'est tout être humain. Il y a trois personnages, mais le troisième personnage, nous pouvons nous y mettre chacun à notre tour, ça nous concerne. Considérons d'abord la place de Dieu dans ce verset. C'est fondamental, c'est central. Dieu. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais la Bible dit que Dieu est. La Bible ne nous dit pas que, elle ne nous prouve pas que Dieu existe, mais elle nous dit au commencement Dieu. Dieu ne se prouve pas, mais Dieu se reçoit et se croit. Dieu, il ne cherche pas à prouver son existence. Au commencement, Dieu, l'athéisme refuse l'existence de Dieu. Et il y a des athées aujourd'hui qui disent Dieu n'existe pas. C'est leur droit, c'est leur liberté, ils refusent l'existence de Dieu. Le matérialiste refuse l'existence de l'âme. Le matérialiste considère que nous ne sommes que chair, point. Et que tout ce que nous, qui nous compose, ce n'est que de la matière. Et que l'âme n'existe pas. Et qu'il n'y a pas de vie future. Le matérialiste, il s'arrête à ce qui est là, matériel. Point, c'est fini. Il ne croit pas en l'âme. Le scepticisme consiste à mettre en doute toute forme de transcendance. Je ne pense pas que cela puisse arriver, que des miracles aient lieu, que des guérisons se produisent. Que Dieu soit au-dessus de tout et qu'il puisse accomplir des choses extraordinaires. Le scepticisme refuse la possibilité d'intervention de Dieu, l'intervention miraculeuse. Le sceptique dit « ça n'existe pas, ce n'est pas possible ». Il refuse de croire. Toutes ces positions qui existent dans le monde, elles sont là et elles existent et nous ne pourrons pas les enlever, sont autant de credos que les hommes peuvent avoir. Mais nous, nous avons choisi un autre credo, nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois qu'il est le Créateur. Je crois qu'il est le Seigneur. Je crois qu'il est au-dessus de tout. Je crois qu'il est en dehors de la création. Je crois en sa souveraineté. Je crois en sa puissance. Mais par-dessus tout, je crois en son amour. Car Dieu a tant aimé. Et ça, c'est le verbe central qui est là dans ce verset. Dieu aime. Dieu est amour. Oh, que c'est merveilleux de pouvoir comprendre l'amour de Dieu. C'est la chose la plus précieuse. Dieu aime. C'est sa nature même. On ne peut pas imaginer autre chose que cet amour profond. Il est amour. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre tremblent. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on fait mention de Dieu, ils ont peur. D'ailleurs, la religion nous amène à avoir peur de Dieu. On le considère sous l'angle de celui qui va punir, qui va sévir. Tu as mal fait, tu as péché, tu as commis des choses mauvaises. Alors tu vas connaître aussi des sanctions, des punitions. On a souvent eu une image déformée de Dieu qui n'est pas ce Dieu dont la Bible nous parle, ce Dieu amour. Nous avons une image déformée de Dieu qui est celle d'un Dieu qui punit, qui châtie. Mais c'est notre péché qui nous fait avoir peur de Dieu. C'est notre mauvaise conscience qui nous empêche de le connaître tel qu'il est. C'est l'ennemi de nos âmes qui nous trompe, comme toujours. Il nous empêche de nous réjouir et de croire dans l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu as fait, peu importe. Ce que tu as dit, peu importe. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est une réalité. Il nous aime, tout pécheur que nous soyons, tout coupable que nous soyons. Il dit simplement dans l'Écriture que Dieu nous aime. D'ailleurs, il est écrit que Dieu a tant aimé. Ce n'est pas simplement que Dieu a aimé, mais il est parlé ici d'un amour qui est extrême, d'un amour qui est extravagant, d'un amour qui va au maximum, d'un amour qui est, on ne peut pas être plus élevé, c'est un amour au top, c'est un amour qui est au niveau le plus élevé. Dieu a tant aimé, il a tant aimé. Pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître la réalité de l'amour de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu nous le faire connaître. C'est ce que dit Jean, chapitre 1er, verset 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Il nous a fait connaître un Dieu qui est amour. Dieu est amour. D'ailleurs, il l'appellera Père. C'est pour nous faire entrer dans la compréhension de l'amour de Dieu. Dieu nous aime comme un Père, un bon Père, un Père qui aime ses enfants. Oui, je sais qu'il y a des enfants qui parfois ont une mauvaise image de leur père. J'ai vu venir dans une assemblée où j'ai été un garçon, un jeune homme, perturbé, angoissé, troublé. Même le psychisme était perturbé. Ce garçon avait été violé alors qu'il était un garçon encore jeune, très jeune, moins de 10 ans, il a été violé par son propre père. Et bien sûr, l'image qu'il avait de son père était une image très négative. Et je sais qu'il existe aujourd'hui dans la société, dans le monde, et peut-être même dans cette salle, des personnes qui ont une mauvaise image du père. Un père qui a été violent, ou un père qui a été absent. Un père qui a été cruel, un père qui a été dur. Un père qui a été violent. Un père qui a été sans les sentiments d'amour normaux qu'il aurait dû manifester. Et il se peut que ton image de Dieu soit déformée parce que tu as eu une mauvaise image de Dieu à cause d'un père qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Mais même si ton père n'a pas été à la hauteur, même si ton père a été violent, même si ton père a été mauvais, même s'il t'a fait du mal, même s'il t'a détruit, même s'il a cassé ta vie, bien sache que Dieu, lui, il est réellement amour et il voit les blessures de ta vie et il veut te guérir de ces blessures. Car Dieu t'aime véritablement. Il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te juger. Dieu t'aime. Oh, la Bible nous parle de ce Dieu dans l'Ancien Testament qui était capable d'accomplir des prodiges. Abraham a connu la puissance de Dieu et il l'appelait Dieu, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu fort, le Dieu puissant. Moïse a connu aussi la puissance de Dieu, il a connu aussi la fidélité de Dieu, il a connu ce Dieu qui s'est révélé sous le nom de Yahvé, je suis celui qui est présent. Oui, c'est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament ont connu cette parcelle de Dieu, mais Jésus, le Fils, nous a fait connaître le Père, le cœur du Père, car Dieu a tant aimé chacun d'entre nous. Et l'amour de Dieu s'est manifesté au travers d'un cadeau extrême. Il a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on est heureux de donner le maximum de ce que l'on peut donner. Quand on aime, on est généreux. Eh bien, parce que Dieu nous a aimés, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné ce qui était le plus précieux à ses yeux. Il a donné son Fils unique. Malheureusement, nous avons une perception de Dieu qui est déformée parce que nous pensons que pour que Dieu nous aime, il faut que nous lui donnions, que nous lui apportions, que nous lui apportions nos bonnes œuvres, que nous lui apportions toutes sortes d'actions positives. Et nous sommes dans la perspective d'un Dieu qui est prêt à recevoir, qui est prêt à, et qui attend de recevoir, qui attend de voir si nous allons vers lui avec nos actions, nos œuvres, nos bonnes choses. Et nous pensons qu'ainsi Dieu sera satisfait et content de tout ce que nous pourrons lui apporter. Mais Dieu n'est pas celui qui attend que nous lui donnions, Dieu est celui qui vient vers nous et qui nous donne, parce qu'il nous aime. Il nous donne son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Combien ce cadeau de Dieu renverse toutes les perceptions erronées de Dieu qui consistent à croire que Dieu, pour être apaisé, a besoin qu'on lui donne. Dans toutes sortes de religions dans le monde, on en est arrivé même à croire que pour que Dieu soit apaisé, il fallait lui donner des choses précieuses, de l'or, de l'argent, même parfois des enfants. Des sacrifices. Ça existe dans les religions. Ils s'imaginent que pour que Dieu soit satisfait, apaisé, il faut lui donner. Et on a donné des êtres vivants. On les a offerts. Pensant ainsi apaiser ce Dieu. Mais quelle image déformée de Dieu. Dieu n'attend pas de sacrifice de notre part. Dieu n'attend pas que nous lui apportions quoi que ce soit. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné. Ce qu'il avait de plus cher, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus s'est donné lui aussi. Si tu connaissais, dira Jésus à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, Jean chapitre 4, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le don de Dieu, c'est un don royal. C'est un don qui est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Si les rois sont capables de faire de jolis cadeaux, si dans le passé certains rois ont fait des dons extravagants à certaines personnes, s'ils ont été capables de donner des bijoux qui valent des fortunes, mais ce don royal, qu'est-ce que c'est par rapport à ce don divin Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que Jésus mort sur la croix puisse accomplir ce deuxième impératif dont nous ne pourrons pas nous passer, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a donné son Fils. Et ça, c'est la deuxième personne qui est mentionnée dans ce verset. Le Fils unique de Dieu, Jésus. Nous le chantons, nous l'annonçons, nous le prêchons. Nos réunions tournent autour d'une personne. C'est la personne de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Oh là là, c'est un petit Jésus. Hein. Vous êtes fatigué. Hein. Ah là là, il fait tellement chaud. Ce nom, c'est le nom de
Jésus.
Ah, ça va mieux là. Hein. Super, oui, ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom qui est Dieu avec nous. C'est le nom par lequel nous connaissons le Père. C'est le nom par lequel les malades sont guéris. C'est le nom par lequel les vies sont transformées. C'est le nom par lequel ceux qui sont dans la souffrance, dans la détresse, qui ont été blessés par le péché, ceux qui ont été mordus par le serpent, c'est le nom par lequel nous avons la vie. Celui qui se tourne vers le Seigneur reçoit la vie éternelle. C'est celui qui s'est chargé de mes péchés à la croix. C'est celui qui est mort pour moi à la croix du calvaire, Jésus. Le Fils de Dieu, il est monté sur la croix, il a été mis dans le tombeau, il a été placé là dans ce tombeau, mais trois jours après, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est ressuscité, il est monté au ciel, il intercède pour nous, et il reviendra bientôt chercher ceux qui croient en lui. Alléluia. Jésus, c'est le nom du salut. C'est celui qui vient et qui revient bientôt nous chercher. C'est celui qui veut habiter dans ton cœur. C'est celui qui veut venir vivre chez toi. C'est celui qui veut venir remplir ta vie afin que ce premier impératif que tu ne peux pas accomplir seul, tu puisses enfin le vivre. Il faut que tu naisses. C'est impossible si Jésus ne vient pas chez toi. Mais si Jésus vient dans ta maison, si Jésus vient dans ton cœur, alors le changement va se produire. Alléluia. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Zachée. Il a reçu Jésus dans sa maison. Et quand il a reçu Jésus dans sa maison, le cœur de Zachée a été transformé. Cet homme qui était un percepteur, qui avait accumulé de l'argent, qui certainement avait une passion pour l'argent, dira ceci: maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai dérobé quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Il est complètement transformé, il est complètement changé. Qu'est-ce que c'est qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce que c'est qu'il a délivré de cette passion qui était la sienne? C'est parce qu'il a tourné son regard vers le Seigneur, c'est parce qu'il a invité Jésus dans sa maison, c'est parce qu'il a accepté que Jésus vive chez lui, que Jésus entre dans sa maison. Et si tu veux que ça change, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que tu acceptes que Jésus vienne dans ta vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie. Je ne peux pas changer moi-même, je ne peux pas me guérir moi-même, je ne peux pas m'en sortir moi-même. Je suis tenu et je suis esclave de mes chaînes, je suis tenu par mes colères, je suis tenu par mes comportements mauvais, je suis tenu par mes passions, je suis tenu par ces choses qui troublent ma vie. Mais Seigneur, je veux te recevoir cet après-midi pour que ça change dans ma vie. Et ce « il faut que je naître de nouveau », je veux le vivre, Seigneur, en acceptant ce « il faut que toi ». Tu meurs sur la croix pour moi, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je tourne mes yeux vers toi, car tu es ce quiconque. C'est toi, c'est moi, ce quiconque qui a la possibilité de dire oui Seigneur. Je tourne mon cœur vers toi, je t'ouvre mon cœur. Ce quiconque, c'est cette femme qui était possédée de cet esprit mauvais, Marie de Magdala. Ce quiconque, c'était ce Saul de Tarse qui était rempli de haine et de violence, qui voulait tuer les chrétiens. Ce quiconque, c'était la Samaritaine qui avait eu une vie décousue, ayant eu 5 maris, et celui avec lequel elle était n'était pas son mari. Ce quiconque, ce sont tous ces malheureux que Jésus a rencontrés tout au long de sa vie, les aveugles, les boiteux, les infirmes, les gens possédés. Ce quiconque, c'est aujourd'hui encore ceux qui viennent vers lui, dans notre génération. Ce quiconque, c'est un brigand, un voleur, un assassin, un criminel, un jeune voyou, un délinquant, tenu par la drogue et par toutes sortes de passions dans les rues de New York, qui s'appelait Nicky Cruz. C'est ce quiconque-là qui a ouvert son cœur à Jésus et sa vie a été changée. Ce quiconque, c'est moi, misérable pécheur. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, il m'a pardonné. Il a changé ma vie. Ce que je ne pouvais pas faire par moi-même, il l'a fait. Il est celui qui m'a donné une vie transformée. À Dieu soit la gloire. Tout est désir de changement. Tout est désir de changement. Tout est désir de changement. Tu ne pourras pas les vivre tout seul. Il faut pourtant que ça change. Mais pour que ça change, il faut que tu tournes tes regards vers le Seigneur et que tu le reçoives comme ton sauveur. Parce qu'il a fallu qu'il meure sur la croix pour que tu sois libéré. Ce quiconque n'a pas d'effort à faire pour s'en sortir, il n'a qu'à croire. Ce quiconque n'a pas d'œuvre à accomplir, il n'a qu'à croire. Ce quiconque, il n'a pas besoin de faire des exploits, il n'a que simplement dire « Seigneur, je crois en toi, je crois en ton amour, je crois en ta grâce ». Ce quiconque, c'est celui qui dit, Seigneur, cet après-midi, oui, je sais que j'ai besoin de changement, je sais que je ne peux pas changer moi-même, mais Seigneur, merci parce que tu es monté sur la croix pour que dans ma vie, il y ait un changement. Nous allons prier ensemble. Et pendant que nous avons ce temps de recueillement, nos bien-aimés vont nous conduire dans un temps de prière et de chant. Et je voudrais vous inviter, à vous qui êtes ici cet après-midi, et qui dites « oui, il faut que ça change dans ma vie. Il faut que je sois libéré de mes passions. Il faut que je sois délivré de mes mauvais penchants. Il faut que je sois libéré de mes coutumes mauvaises. Il faut que je sois libéré des blessures qui ont brisé ma vie. Il faut que ça change, il faut que je naisse de nouveau. » Il faut que je vive ce miracle de la nouvelle naissance. Il faut comme Zachée que je sois transformé. Il faut comme la Samaritaine que Jésus vienne dans ma vie. Il faut que je sois libéré de mes pulsions mauvaises. Il faut que je sois libéré de mes passions qui me détruisent. Il faut que je sois libéré des mauvais penchants, des mauvaises pensées qui tourbillonnent dans ma tête et qui me rendent esclave, malheureux et abattu. Il faut que j'arrête de me battre contre moi-même, contre tout ce qui dérange mon existence. Il faut que je cesse de vouloir m'en sortir par mes propres efforts et par mes raisonnements. Mais il faut que je croie en Jésus, que je lève mes yeux vers lui, parce qu'il a fallu qu'il meure pour me sauver. Je ne pouvais pas m'en sortir moi-même, mais Jésus est monté sur la croix pour me sauver. Veux-tu cet après-midi tout simplement dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Je me tourne vers toi, j'en ai assez. J'en ai assez de chercher à m'en sortir par moi-même. Le changement, je ne peux pas le produire. Mais je crois que toi, tu peux le produire, Seigneur. Alors je viens vers toi. Je vous invite à vous approcher si c'est là votre prière, pendant que nous sommes dans la prière. Si cet après-midi, tu dis oui, Seigneur, il faut que ça change. Et pour que ça change, il a fallu que toi, tu montes sur la croix. Alors je veux tourner mon cœur vers toi. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux te recevoir cet après-midi. N'hésitez pas. Venez sur le devant, on va prier pour vous. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te sauver, Dieu est là pour changer ta vie parce que Dieu t'aime. Dieu a prouvé son amour en nous donnant ce qu'il avait de plus cher. Jésus, son Fils, est venu pour nous sauver. On va prendre le temps de prier, n'hésitez pas, approchez-vous sur le devant. C'est un temps où Dieu veut se manifester dans nos vies, dans votre vie. Ce que tu ne peux pas faire, Jésus veut le faire cet après-midi. Tu es ce quiconque qui a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différents